Vous écoutez RTL, il est midi et demi. Et le journal inattendu est présenté bien sûr par Marie Drucker. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Eric. Bonjour à tous, merci de rester avec nous sur RTL pour le journal inattendu d'une partie non négligeable du patrimoine culturel français. Bonjour Michel Sardou. C'est la première fois que ça commence par un fou rire. Bonjour Michel Sardou,
bonjour,
merci d'être
bonjour
avec nous. Et vous endossez aujourd'hui le rôle de journaliste, presque. Avec vous, nous allons parler de l'actualité du jour, mais aussi aller aux États-Unis et en Asie. On parlera aussi politique un peu, hein, puisque dans 80 jours, c'est le premier tour de la présidentielle. Là, votre point de vue, hélas, vous avez dit, ça commence
là, je veux parler politique, j'en ai tellement marre.
Un peu, j'ai dit. Ça intéresse quand même les auditeurs de RTL.
Ils en foutent complètement, ils en peuvent plus ces gens-là.
Et puis on vous a réservé aussi quelques surprises, si tant est que l'on puisse encore surprendre quelqu'un comme vous, je sais pas. On a essayé en tout cas. D'abord c'est la tradition, 30 secondes. Qui êtes-vous, Michel Sardou, selon vous ?
Ben, j'ai eu beaucoup de mal à préparer 30 secondes d'autoportrait, parce que je me connais pas bien. Enfin, j'ai trouvé un biais. À une époque, je sais pas si vous vous en souvenez, mais sur les cartes d'identité, on devait mettre sa profession. Et j'avais toujours envie de mettre agriculteur. Mais comme c'était un document officiel et qu'on se doit de pas mentir, je me résignais à écrire divertisseur. Ce qui vous prouve à quel point ma vie est un ratage complet.
Et vous voyez, vous pensiez pas tenir 30 secondes, ça fait 30 secondes.
J'ai fait 30 secondes, ouais. Qu'est-ce que je suis doué. Je suis
qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon.
Appelez-moi le directeur d'RTL, je suis pas trop cher en ce moment.
Tout à l'heure, juste après le rappel des titres de 13h, c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui viendra faire votre portrait, mais tout de suite, c'est le journal et un journal. Ça commence par les titres.
RTL, 12h30, 13h30.
Le journal inattendu, Marie Drucker.
La vague de froid atteint son paroxysme partout en France. Tout l'est du pays est enfermé dans une poche sibérienne. Il fait moins 20 à Mulhouse, pratiquement la même chose à Reims, Guillaume Chiez.
Moins 19,7 degrés ce matin dans les rues de Reims. La cathédrale est enneigée, un temps à ne pas mettre le nez dehors. Sauf quand on y est obligé, comme Alain qui est facteur.
Les trottoirs, c'est pas trop dégagé, donc pour circuler, c'est dur. Bah, je distribue quand même, en poussant le vélo, voilà, à pied, ouais. Bon, là, je suis bien couvert, et puis il y a eu des petites pauses, ouais. Ça réchauffe un peu.
Le froid qui a fait un deuxième mort hier, encore une personne âgée, atteinte de la maladie d'Alzheimer, une femme sortie d'une maison de retraite, Patrick Hisson.
Oui, la retraitée de 72 ans était vêtue d'un simple pyjama lorsqu'elle a quitté l'établissement après avoir forcé le volet de sa chambre et escaladé un portillon jeudi soir vers 23h. L'alerte a été rapidement donnée, mais les recherches entreprises toute la nuit sont restées vaines. Et c'est un corps sans vie qui a été retrouvé le lendemain vers 11h30, hier matin, donc, dans un parc situé tout près de la maison de retraite.
Et la vague de froid va se prolonger toute la semaine, c'est ce que nous dira Patricia Charbonnier dès le début de ce journal. 260, c'est le nombre de civils tués à Homs en Syrie la nuit dernière. Le régime ne se contente plus de réprimer les manifestations dans le sang. Il torture et massacre les femmes et les enfants. Jean-Marie Fardeau, directeur à Paris de l'organisation Human Rights Watch.
Nous pensons que la sophistication des tortures infligées qui ne vise pas à tuer les gens, mais simplement à les faire souffrir le plus possible et ensuite décourager leurs familles de continuer à manifester. On voit que le résultat ne fonctionne pas et c'est toute la gloire des citoyens syriens qui osent, malgré cela, continuer à défier les forces de sécurité dans la rue tous les jours.
Pourquoi les Républicains critiquent-ils sans cesse la France ? Depuis un mois que les primaires ont commencé, alors que le Nevada vote aujourd'hui, les candidats n'ont pas de mots assez durs contre la France. Et vous avez voulu savoir, Michel Sardou, ce que pensent les Républicains de la rue. Il est loin, en tout cas, le temps où Mitt Romney, le favori, s'enorgueillissait de parler notre langue.
Bonne chance à tous et aussi bon courage.
Et puis c'est l'événement en sport de ce samedi, l'ouverture du tournoi des 6 nations avec France-Italie. 10 titulaires de la finale de Coupe du Monde jouent cet après-midi. Parmi eux, Pascal Papé, deuxième ligne du 15 de France, à 3h de l'entrée sur la pelouse du Stade de France.
On a tous envie de rester sur la fin de Coupe du Monde, sur la même lancée, avec le même enthousiasme. Je crois qu'on a un maillot sur les épaules qu'on doit respecter parce qu'il y a tellement de personnes qui aimeraient être à notre place. C'est un honneur pour nous de représenter notre sport, notre pays. Donc voilà, au-delà bien sûr du nouveau staff, il y a toute cette cet aspect-là qui nous motive encore plus.
Enfin, pourquoi les Chinois aiment-ils autant le vin français au point de faire main basse sur les vignobles du Bordelais? Cet engouement vous passionne. Michel Sardou, la Chine a importé plus de 51 millions de bouteilles de Bordeaux en 2011 parce que c'est bon et parce que c'est tendance.
Il y a une très forte croissance pour la consommation du vin en Chine. Les Chinois vont penser que le vin c'est vraiment pour la santé, c'est très à la mode à ce moment-là pour boire du vin en Chine.
Voilà, et les Chinois également fous de chocolat, comme les Japonais d'ailleurs. L'aiment-ils noir, au lait, sucré, amer? C'est ce que nous dira votre invité.
Ils n'ont pas de noir.
Michel Sardou, ils n'ont pas de noir?
Ils n'ont pas encore de noir, c'est collé pour l'instant.
Le chocolatier Jean-Paul Évin sera en direct de Tokyo. Il répondra à vos questions, Michel Sardou.
RTL 12h35, Marie Drucker.
La vague de froid a déferlé donc sur toute la France. Vous avez été très nombreux ce matin sur RTL à nous adresser des SMS pour nous donner les températures de chez vous et nous expliquer comment vous faisiez face aux difficultés. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Alors il fait encore plus froid en fait que ce qui était prévu ce week-end.
Oui, on a eu quelques surprises ce matin avec des températures très basses, proches des moins 20 degrés entre le nord et le nord-est. En fait, on a une petite perturbation qui a traversé la moitié nord du pays cette nuit en donnant quelques centimètres de neige. Et là où les sols sont enneigé, eh bien les températures ont chuté. Et puis n'oublions pas le vent qui est encore assez sensible sur une bonne partie du pays et qui rafraîchit encore plus, qui accentue cette sensation de froid. Juste un exemple pour ce matin, à Lyon, on avait relevé moins 10 degrés de température sous abri, mais avec un vent de nord-est de 35 km/h, eh bien la température ressentie était de moins 20 degrés ce matin à Lyon. Alors demain matin, nous aurons à peu près les mêmes températures sur l'est du pays et encore plusieurs jours sans dégel, car la moitié est de la France est vraiment sous la masse d'air polaire qui nous arrive tout droit de Sibérie. La situation météo est bloquée par cet anticyclone russe qui dirige ce courant d'air glacial. C'est ce qu'on appelle en météo le Moscou-Paris.
Oui, c'est ça, direct.
Avant de Sibérie, souffle sur la Bohème. Mais dites-moi, ça met pas un coup au réchauffement climatique, ça?
Patricia? Pas moi qui peux répondre.
Dérèglement climatique, on va dire.
Dérèglement, oui. Dérèglement climatique, parce que le réchauffement,
on n'en parle pas. Dérèglement climatique.
Là, il prend un grand coup de pied au cul.
En même temps, rien d'exceptionnel. C'est l'hiver. C'est vrai qu'il est un peu tardif cette année, puisque la vague de froid a débuté mercredi. Avant, on avait des températures vraiment très très douces au-dessus des moyennes de saison. Mais là, bon, c'est rien d'exceptionnel.
Oui, vous êtes nombreux aussi à nous envoyer des SMS et à témoigner pour dire « Ah bon, il fait froid, c'est l'hiver. » Très bien, merci pour l'info. N'empêche que le froid va se prolonger toute la semaine et qu'en plus, maintenant, la neige va s'en mêler.
Oui, dès ce soir, sur l'ouest du pays, on a actuellement 15 départements qui sont placés en vigilance orange neige-verglas entre la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et l'ouest de l'Aquitaine. On attend entre 5 et 10 cm de neige. Cette perturbation devrait également gagner la région centre et l'Île-de-France. Ensuite, elle n'ira pas plus loin. Elle va être stoppée dans sa course, toujours par cet air froid polaire qui va carrément la repousser lundi vers l'Atlantique et elle aura bien perdu de son activité. Et ensuite, eh bien, c'est le froid polaire qui reprend le dessus.
Merci Patricia, on vous retrouve tout à l'heure dans le rappel des titres à 13h. Et puis je vous le disais en titre, le froid a fait une deuxième victime. Deux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer après cet homme de 82 ans sorti de chez lui en pyjama en Moselle. C'est une femme d'environ 70 ans qui a été retrouvée hier. On ne l'a appris que ce matin. Alors évidemment, ça soulève de nombreuses questions. Nous allons poser tout de suite à Michèle Mika. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes vice-présidente de France Alzheimer. D'abord, quel est le lien entre ces deux morts, outre le froid bien sûr, et la maladie?
Alors, je vous réponds tout de suite, mais d'abord une pensée très émue, une pensée solidaire pour les familles qui vivent ce drame en ce moment.
Bien sûr.
Et je réponds au lien. Bien sûr, deux liens, le contexte de grand froid et celui de la maladie d'Alzheimer. Mais face à des situations qui sont bien différentes et qui illustrent les difficultés que l'on rencontre dans cette maladie évolutive. D'abord une personne relativement âgée et à domicile, et ensuite une personne relativement jeune et en institution. Ce qui veut dire que les problèmes sont vraiment très différents, et à différents stades de la maladie sans doute.
Est-ce que ces deux personnes, ou d'autres d'ailleurs, se rendent compte du froid qu'il fait?
Vraisemblablement, mais par contre, du fait d'un trouble qui est spécifique à la maladie d'Alzheimer à un stade qui est souvent assez avancé, il y a une impossibilité d'avoir une conduite et une réponse adaptée à la situation dans laquelle on se trouve, en l'occurrence le froid. C'est-à-dire qu'en ayant la conscience du froid, la personne ne va pas savoir ce qu'il faut faire pour s'en protéger et ce qu'il faut faire pour rentrer au lieu actuel de résidence parce que le repérage fait qu'il n'y a plus de possibilité de se repérer.
Alors justement, dernière question, Madame Mika, est-ce qu'à votre avis, c'est une des propositions qui est avancée, est-ce qu'il faut équiper les malades d'Alzheimer de GPS, c'est-à-dire de systèmes de géolocalisation?
Ils ne sauront pas le dire.
Alors c'est très controversé. Il y a quelques réserves à mettre en place d'emblée, et en particulier une réserve éthique, qui est l'acceptation préalable de la personne, qui n'est pas toujours réalisable, et surtout que la géolocalisation ne vienne pas se substituer à une surveillance humaine. Et par contre, alors, dans quelques cas, c'est très rassurant pour les familles, et ça évite le sentiment d'enfermement, et peut-être ça peut éviter ces drames, mais la surveillance humaine ne sera jamais, jamais, jamais remplaçable.
Merci beaucoup Michel Mika d'avoir répondu à nos questions en direct sur RTL. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de France Alzheimer. On marque une pause tout de suite sur RTL, puis cette question, combien de temps encore le régime syrien va-t-il massacrer son peuple? À tout de suite.
RTL 12h40.
RTL, le journal inattendu.
Marie Drucker. RTL 12h42, suite du journal inattendu présenté par Marie Drucker, le rédacteur en chef aujourd'hui, Michel Sardou.
Il n'y a plus de mots pour décrire ce qui se passe en Syrie. Depuis des mois, nous vous parlons de la répression sanglante qui frappe les opposants au régime de Bachar al-Assad. Un régime qui désormais massacre les femmes et les enfants. 260 civils ont été tués la nuit dernière et jusqu'à l'aube, dans la ville de Homs notamment. Bonjour Isabelle Datt.
Bonjour.
Le régime a encore franchi un cap, puisque maintenant il ne se contente plus de réprimer dans les manifestations, mais cible les civils endormis dans leur maison.
Oui, comme le disait un diplomate cette semaine, on est passé d'une répression violente, perverse et contrôlée à une répression violente, perverse et déchaînée. Les nouvelles sont de plus en plus effroyables. Cette nuit, les forces d'Assad ont pilonné fortement et au hasard des zones résidentielles. Les habitations se sont effondrées comme des châteaux de cartes sur leurs occupants endormis. Les rues de Homs sont jonchées de cadavres et les centaines de blessés ne trouvent plus de place dans les hôpitaux à court de sang et d'oxygène.
Alors, sur le plan diplomatique, les grandes puissances tentent de se mettre d'accord sur une résolution à l'ONU, mais enfin, la Russie bloque toujours et encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer là?
Alors, ce matin, elle réclame une résolution plus équilibrée sur la Syrie. Principale objection, le projet évoque des mesures à prendre contre Damas, mais pas contre les insurgés. Difficile, entre nous soit dit, de mettre sur le même plan l'arsenal d'un régime répressif depuis des décennies et les moyens artisanaux d'une opposition qui ne fait que se défendre. Moscou laisse entendre qu'elle fera usage de son droit de veto, auquel cas le texte ne sera finalement pas soumis au vote aujourd'hui, car les Occidentaux ont aussi leur ligne rouge, ne pas sortir du plan de la Ligue arabe qui prévoit entre autres l'arrêt de la répression, la libération des prisonniers, le retour de l'armée dans les casernes et le libre accès d'observateurs. Hillary Clinton doit rencontrer tout à l'heure son homologue russe pour tenter de trouver un terrain d'entente.
Isabelle Datt, merci. Michel Sardou, vous disiez tout à l'heure pendant la pub, vous disiez mais ce qui se passe
c'est
en
la Saint-Barthélemy,
Syrie maintenant
ouais. C'est exactement ça, on massacre tout le monde de nuit, comme des loups, quoi. Ce sont des loups qui attaquent la nuit et qui s'en prennent à des gens endormis, sans défense, d'après ce que j'ai compris, des civils, des femmes, des enfants, etc. Bon, maintenant, je ne comprends pas, honnêtement, de mon point de vue, parce que je ne suis pas diplomate, je ne sais pas vraiment comment fonctionne l'ONU, mais enfin, un droit de veto des Russes me paraît quand même très ridicule, quoi. C'est faut arrêter ça. Qu'après, la façon dont on règle les problèmes, que les Russes s'opposent à telle ou telle façon, je veux bien, mais là, quand il s'agit d'un massacre, mon Dieu, c'est quand même là, au-delà de la diplomatie, c'est de l'humanitaire, c'est pratiquement...
Le texte a déjà été...
Isabelle Datt.
Très allégé pour permettre aux Russes de le voter, et ils n'en veulent toujours pas ce matin.
Qu'est-ce qu'on a à foutre des Russes?
Oui, mais leur droit de veto...
Des Russes, je veux dire, à quoi ça sert? Oui, c'est le machin, comme disait De Gaulle, c'est un gros machin, l'ONU, c'est tout.
Ou alors on fait comme Bush et on part en Irak sans un vote de l'ONU, et on a vu ce que ça donnait.
Oui, enfin bon, c'est une mauvaise cible aussi, mais disons que les raisons étaient mauvaises. Là, les raisons sont bonnes, il s'agit de massacres de civils, d'enfants, de femmes, etc., et de nuit.
Syrie a d'autres alliés dangereux dans la région.
Oui, je m'en doute bien, mais je n'ai pas la solution, je vous rassure.
On ne va malheureusement pas la trouver ici tout de suite,
parce que ça
serait formidable.
Pressé,
oui. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, je pense que c'est un sujet non seulement essentiel, mais en plus passionnant, et qu'on va être malheureusement amené à en reparler régulièrement sur RTL. Et ailleurs, merci beaucoup Isabelle Datt pour vos explications. Alors, si la campagne ne vous passionne peut-être pas en France, Michel Sardou, mais on en reparlera quand même dans la deuxième partie de l'émission. Les primaires républicaines aux États-Unis, ça vous amuse un peu plus?
Non, c'est pas les primaires qui m'amusent, ça m'amuse pas du tout d'ailleurs. Je pense que l'état d'esprit des républicains américains, leur francophobie me gêne. Parce que vraiment, on a l'impression, quand on écoute certains, pas tous, n'exagérons pas, mais Vraiment, il y a un côté anti-français dans la masse des républicains qui me dérange vraiment parce qu'on mérite pas ça. Mmh. On mérite pas ça, qu'on soit critiquable, bien entendu, mais merde, ça va. Quand vous survolez le Texas, par exemple, moi, j'aurais jamais dit, mais je vais leur dire maintenant, et en français, ils vont faire l'effort d'essayer de me comprendre, il y a que des églises et des prisons, hein. Mmh. Point barre. Alors, je préfère habiter ici.
Mmh. Oui, alors vous avez raison, pour eux, c'est l'anti-modèle absolu, hein. Bonjour Rémi Sulmont.
Bonjour.
Alors vous suivez ces primaires pour RTL, hein, sur les tribunes des meetings dans la rue, ça tape dur hein, contre la France et les Français.
Oui, c'est ce qu'on appelle du matraquage. Aucun des discours de Mitt Romney, mais honnêtement pas un seul, ne se termine sans un couplet anti-européen. Pour le favori de la primaire républicaine, accuser Obama de dénaturer, de vouloir métamorphoser l'Amérique en un pays socialiste européen, est un argument de campagne.
Le président Obama veut transformer l'Amérique en une société assistée de style européen. Nous voulons nous assurer de rester une terre de prospérité et d'opportunité. Ce président puise son inspiration des capitales européennes. Nous, nous regardons les villes d'Amérique pour notre inspiration.
Voilà, l'argument est plus subtil que d'accuser Obama d'être musulman ou de ne pas être né aux États-Unis, ce serait taxé de racisme, mais le message est le même, Barack Obama est un anti-américain, un traître aux principes fondateurs de l'Amérique. Une Europe déliquescente, en échec total, Mitt Romney surfe ainsi sur la méconnaissance du modèle social européen et sur les clichés répandus parmi les électeurs américains. Écoutez par exemple Karen rencontrée en Floride cette semaine, elle dit d'abord adorer Paris et la France, avant d'enchaîner.
Je ne connais pas bien les Français, sauf le fait qu'ils prennent leur retraite tôt et qu'ils ont une vie tranquille. C'est la belle vie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais le monde n'a pas les moyens d'avoir autant de gens assis sur leur chaise et profitant de la vie. Nous, on travaille dur. J'ai 67 ans, je suis à plein temps. Je crois qu'il y a du boulot à faire et nous avons tous une mission sur Terre. Et ne rien faire, ce n'est pas américain.
Alors entendons-nous bien, on est parvenu au temps du French bashing pendant la guerre d'Irak, il n'y a aucune haine envers les Français. Simplement, effectivement, l'Europe est clairement un repoussoir et parler français est un gros défaut que Mitt Romney et son adversaire Newt Gingrich possèdent tous les deux. Je prends les paris, vous ne les entendrez pas prononcer un mot de français jusqu'à la fin de la campagne électorale.
Ah, ça c'est sûr. Rémi Sulmont, correspondant de RTL aux États-Unis. Bon, près de 5 millions de chômeurs apprécieront la vie tranquille hein, et les auditeurs de RTL qui ont du mal à boucler leur fin de mois et à payer l'électricité.
Image, ils ont un cliché. Ils ont un cliché sur nous. C'est la bonne bouffe, c'est les belles filles, c'est ça. J'avais ça. J'ai habité moi quelques années en Floride justement. Enfin, je suis pas resté quelques années tout le temps, mais j'avais une maison là-bas où j'allais en vacances et j'ai jamais pu m'intégrer. Moi, par exemple, je suis le type même du mec qui s'intègre pas.
Pourquoi
dans la mec parce que je peux pas les piffer.
Ah,
c'est pas. C'est pas comment vas-tu, c'est combien vas-tu. Ouais. C'est-à-dire, si t'es riche, t'es reçu partout, machin, mais si t'es un mec normal, sans grosse fortune, personne te parle. Il y a des clans très marqués. Il y a des endroits qui sont interdits, par exemple des golfs, qui sont interdits aux blacks, qui sont interdits aux juifs, qui sont interdits aux chrétiens. C'est complètement ridicule pour nous. Je veux dire, ça nous paraît complètement stupide.
C'est pire que ridicule, même.
C'est une sorte d'apartheid latent qui est toujours là. Pratiquement, surtout en Floride, d'ailleurs, parce qu'ils ont très peur. Il y a eu l'arrivée des Cubains, etc. Donc ça se passe assez mal. Mais j'aime pas cette façon anti-française, cette façon... bassement, parce qu'il dit.
Non, mais ce qui nous
lui,
reproche,
il est gentil, il dit européen, mais c'est pas européen.
Non, mais parce que
ils
européen,
beaucoup,
ça
les
vient du 18e siècle. Au 18e, ils étaient dans un anti-européanisme
alors,
global.
Autant on est, nous, reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous, et moi le premier.
Les Ricains,
par exemple.
Une chanson,
mais quand j'ai rencontré les Républicains là-bas, de base, je parle pas des hommes comme Mitt Romney et tout ça, c'était des sales cons, quoi. Ils avaient une image de nous qui je disais, mais c'est pas possible, c'est les arriérés, quoi. Mm. En gros.
En gros.
Oui.
Ouais, hein, d'accord. C'est la pub, Michel.
Vive la pub.
RTL 12h51.
12h30, 13h30 sur RTL.
Le journal inattendu, Marie Drucker.
RTL 12h53, nous retrouvons le journal inattendu dirigé par Marie Drucker. À ses côtés, Michel Sardou. Et c'est l'un des sujets que vous avez choisi de traiter aujourd'hui sur RTL, Michel Sardou, c'est l'engouement des Chinois pour le vin français.
Ah oui, ça c'est génial.
Bon, c'est un engouement aujourd'hui élevé au rang de business, hein, il faut être clair, puisque la Chine et Hong Kong ont importé en 2011 plus de 251 millions de bouteilles. Vous savez ce que ça représente en euros ?
Non.
654 millions. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL à Bordeaux. Les Chinois importent et les Chinois achètent des vignobles?
Eh bien, pour les Chinois, c'est assez simple. Le vin, c'est Bordeaux. Ils sont à la recherche de produits rares, des marqueurs sociaux qui étalent leur réussite. D'où leur engouement pour les vins de Bordeaux. Philippe Raoux est viticulteur et négociant. Il a ouvert la winery sur la route du Médoc, un espace de vente avec plus de 1500 références. Et il voit défiler quotidiennement des acheteurs chinois. Quelques-uns ont un crédit illimité.
On a eu un client chinois qui est un particulier, qui est venu en jet privé. Et il nous a acheté pour 1 600 000 euros de vin en l'espace de 3 jours.
Et ce gros acheteur chinois n'y connaît absolument rien.
Il ne connaît que les étiquettes, il est conquis par ses vins et il veut monter des magasins de vin dans sa région.
Ce sont donc de très bons clients et également des investisseurs. Philippe Raoux a vendu l'un de ses châteaux à un groupe chinois, Château Devieux en Lalande Pomerol, pour 8 millions d'euros. Sophie Lafargue est la responsable d'exploitation. Les nouveaux patrons chinois interviennent très peu dans la fabrication du vin.
Il n'y a pas eu de grands changements. Ils sont venus, ils sont restés fidèles à la politique de gestion du château de Viau. Par contre, cette année 2012, le directeur chinois compte venir plus régulièrement afin de s'intégrer vraiment dans la vie du château.
Seulement 10 propriétés ont été achetées par des Chinois dans le Bordelais. C'est un moyen de promotion du vin de Bordeaux sur le marché chinois. Et dans les châteaux, on embauche des vendeurs chinois comme Lucie Huang, barre des diplômes bilingue. Elle dirige le secteur Asie chez Philippe Raoux.
Pour beaucoup de Chinois, les vins, c'est un produit de luxe. Et les Chinois qui aiment bien le produit luxe, moi j'aime bien le produit luxe aussi. J'aime bien les choses qui sont très beaux parce que les vins, je trouvais, c'est pas seulement un vin, il y a une étiquette, il y a une histoire derrière. C'est une entière de la France, c'est la totalité de la France.
Le prochain défi, éradiquer la contrefaçon. En Chine, on estime que la moitié des bouteilles vendues sous l'étiquette Bordeaux sont des fausses, remplies avec du vin qui n'a rien à voir avec le vignoble du Bordelais.
Philippe de Maria, le correspondant de RTL à Bordeaux.
Les Chinois faisaient du vin 1300 ans avant Jésus-Christ quand même déjà.
Oui, alors surtout dans le nord du pays. Est-ce que vous avez vu ce Michel Sardou que le 14 décembre dernier, il s'est tenu à Pékin une grande dégustation de vin à l'aveugle.
Oui, mais j'ai suivi ça.
5 vins chinois, 5 vins de Bordeaux. Les juges étaient évidemment chinois et français.
Ce sont les Chinois qui ont gagné.
Les 4 premières places. Ouais. Le 5e est un Médoc.
Ils vont tout nous bouffer, les Chinois. Ils vont tout nous bouffer, ça c'est sûr.
On a de la chance de vous avoir parce que vous êtes docteur S étiquette.
Oui, non mais les étiquettes sont très importantes parce que les couleurs en Chine, comme tu le sais, ont une signification. Hein. Donc, par exemple, le blanc, c'est le deuil, on le sait. Bien que maintenant, les jeunes femmes qui se marient se remarient en blanc parce qu'elles se sont occidentalisées, etc. Mais par contre, soir ou dîner, il faut faire très attention. Si la bouteille de vin a une étiquette rouge, ça va. Parce que c'est bonheur, c'est signification de bonheur, de santé, etc. Jaune aussi, parce que le jaune, c'était la couleur des empereurs. Puissance, richesse, etc., pouvoir. Mais si jamais vous avez le malheur de mettre une étiquette verte, là, vous vendrez jamais votre vin, vous ferez une soirée d'épouvantable, parce qu'en chinois, avoir un chapeau vert, ça veut dire je suis cocu. Alors, le jour d'un mariage, bien. Évidemment, ça...
Donc,
ça...
je ne souligne absolument pas le fait que vous portez à l'instant une écharpe verte.
Elle n'est pas verte du tout, elle est turquoise. Ta mère dirait une turquoiserie, d'ailleurs.
Évidemment, c'est une plaisanterie. Et on salue votre femme, Anne-Marie Perrier, qui nous écoute d'autant mieux qu'elle est dans ce studio.
Reviens au vin. Ils vont gagner parce que je sais plus quoi de Bordeaux là. Ouais. Son directeur va venir cet été. Pourquoi tu crois qu'il vient cet été, le directeur, dès qu'il a racheté le château, pour nous piquer nos techniques? En piquant nos techniques, ils vont nous passer devant. Ça, c'est sûr.
Bon, très bien. Alors, fou de vin français, fou de chocolat aussi, les Chinois, comme les Japonais d'ailleurs. La Chine a son salon du chocolat depuis 2010 seulement, pour comparaison. La France, nous, on a démarré en 1994. Et votre invité est en ligne avec nous depuis Tokyo, Michel Sardou. Bonjour Jean-Paul Evin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Michel, tiens, je vous le laisse, c'est votre invité.
Je sais sans savoir, on m'a dit, j'ai rencontré beaucoup de Chinois et beaucoup de Japonais, qui d'un seul coup, les Japonais c'est moins étonnant, mais les Chinois c'est plus étonnant. Ils découvrent le chocolat un peu comme les enfants découvrent le chocolat. Et donc ça marche, si on veut faire des ronds maintenant, je le dis à des jeunes entrepreneurs, apprenez à être chocolatier, installez-vous en Chine, vous allez vous faire des boules en or.
Il a raison, Michel Sardou, Jean-Paul Evin.
Je pense que oui, il a raison.
À quoi c'est dû? Alors, c'est la découverte, c'est quoi?
C'est la découverte, c'est aussi, je pense, des produits qui sont très, très appréciés en Occident. Donc, du coup, les Chinois s'intéressent beaucoup à tous ces produits de luxe et le chocolat en fait partie.
Quel genre de chocolat? Est-ce qu'on aime le chocolat noir? Est-ce qu'on aime le chocolat au lait? Sucré, pas trop sucré?
Alors moi j'ai constaté que chez les Chinois, le chocolat noir était très apprécié parce que les Asiatiques n'aiment pas trop le sucré. Et donc du coup ils se retournent vers le chocolat noir.
Et tu sais qu'il y a un détail, vous allez me le confirmer certainement puisque vous êtes là-bas, dans la cuisine chinoise il n'y a pas de dessert. Il n'y a jamais de dessert dans la cuisine chinoise. Il y a simplement au milieu de l'après-midi une espèce de petit goûter comme ça. Avec des fruits, voilà. Avec des choses, mais la cuisine chinoise n'intègre pas le dessert comme nous.
Jean-Paul Évin.
Oui, donc c'est exact.
Et donc le gâteau au chocolat va faire un triomphe, mais on va manquer de cacao.
Non, on ne va pas manquer de cacao, non.
Vous avez vu les queues qu'il y a devant les queues à la chinoise, c'est 3 km.
Non, c'est une vraie question ça, Jean-Paul Évin, pour terminer, on ne va pas manquer de cacao ?
Non, je ne pense pas qu'on va manquer de cacao, non. Effectivement, si on paye le cacao le prix qu'il vaut, je pense qu'il y a aussi des gens qui produisent des planteurs qui vont se mettre à travailler beaucoup plus aussi.
Et puis les Chinois vont nous faire un faux cacao, hein. Comme ils ont fait du faux Vuitton.
En tout cas, vous, Jean-Paul Évin, maître chocolatier, c'est pas vous qui allez faire du faux chocolat. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans le journal inattendu de Michel Sardou sur RTL. À tout de suite pour le rappel des titres.
Le journal inattendu sur RTL.
13h01. Le rappel des titres, Michel Sardou, Marie Drucker.
Ah oui, pardon pour cette petite minute de retard. Le grand froid atteint son pic en France. Deux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont mortes d'hypothermie en 2 jours. Elles étaient sorties en pyjama. Le mercure a atteint les moins 20 degrés par endroit la nuit dernière. Et ça va continuer, Patricia Charbonnier.
La vague de froid va se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins. Et puis la neige va faire son grand retour à partir de ce soir par l'ouest du pays. On a une perturbation très active qui va donner de la pluie cet après-midi sur le Finistère, mais de la neige dans l'intérieur des terres dès ce soir sur la Bretagne et le Cotentin. 15 départements sont actuellement placés en vigilance orange. On attend 5 à 10 cm de neige sur cet épisode neigeux.
Patricia, c'est toute l'Europe qui est touchée depuis le début de la semaine par cette vague de froid glacial. À Rome, à Medispiace, les Italiens n'avaient pas vu la neige depuis 25 ans, au point que les autorités ne savent pas comment faire face à venir.
Oui, et malgré les prévisions météo très précises, il n'y a ni sable ni sel dans les rues de Rome transformées en patinoires. Témoignage de Gaëlle, une touriste normande.
C'est normal. On sent bien qu'ils n'ont pas l'habitude. Chez nous, c'est plus réactif. On a failli tomber plusieurs fois, nous déjà. On se rattrape in extremis, on va pas trop vite vu qu'on est en vacances. C'est joli l'Italie, mais les petits pavés et le marbre, c'est super glissant.
Comble du grotesque, dans la capitale de la 3e puissance de la zone euro, le maire a invité les habitants et les commerçants à utiliser leur pelle à poussière pour ramasser la neige.
La terreur en Syrie. La nuit dernière, 260 civils ont été tués à Homs, parmi eux des femmes et des enfants. On ne se contente plus de réprimer les manifestations dans le sang. Maintenant, on torture et on massacre. Jean-Marie Fardeau, directeur pour la France de l'organisation Human Rights Watch.
Les enfants sont traités comme des adultes, battus, électrocutés, torturés avec des simulations de noyades. C'est le fait d'être suspendu au plafond par des menottes sans pouvoir toucher le sol pendant plusieurs heures. La liste est absolument accablante et horrifiante et on a du mal à imaginer ce que peuvent endurer tous ces enfants.
En Russie, des dizaines de milliers de manifestants bravent le froid en ce moment. Cela dit, pour eux, c'est pas un problème. Même dans tout le pays, pour dénoncer le régime de Vladimir Poutine, fameux copain de Bachir el-Assad. Madeleine Leroyer, vous êtes à Moscou pour RTL. Un test crucial pour le Premier ministre à un mois jour pour jour de l'élection présidentielle.
Vladimir Poutine espérait que la contestation s'enlise dans l'ornière de l'hiver russe. Eh bien, c'est un pari perdu. Ils sont encore des dizaines de milliers à le défier aujourd'hui, ici à Moscou et un peu partout à travers le pays, équipés comme pour une expédition dans le Grand Nord. Un mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle. Leur mot d'ordre est limpide, pas une seule voix à Vladimir Poutine.
Le ciel français sera-t-il paralysé en début de semaine prochaine? On peut le penser. 4 jours de grève unitaire des pilotes, hôtesses, stewards, personnel au sol pour s'opposer au projet de service minimum dans le transport aérien. Le vice-président du syndicat national des pilotes de ligne, Philippe Vivier, était ce matin l'invité de Bernard Porrette sur RTL.
Le gouvernement a confirmé sa volonté de restreindre le droit de grève à tous les salariés du secteur aérien où de nombreuses sociétés et compagnies aériennes luttent pour leur survie. On comprend mal que le gouvernement vienne rajouter de l'huile sur le feu.
Le coup d'envoi du tournoi Destination sera donné dans 2h30 au Stade de France avec France-Italie. Yann Boucherie du service des sports de RTL nous a rejoint dans le studio. Yann, on est favori, mais méfiance.
Oui, attention, antipasti plus copieux qu'il n'y paraît avec ces transalpins victorieux du 15 de France l'an passé à Rome. Après une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande réussie, les Bleus ne doivent pas décevoir leur public. Le consultant rugby de RTL, Christophe Dominici.
Ouais, gagner, plaire. Alors ça, c'est toujours délicat quand on dit ça à un entraîneur. L'entraîneur dit non, moi avant tout, je veux gagner. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'exposition de notre sport fait qu'il faut séduire. On est des gladiateurs, quelque part. C'est un sport où il y a l'affrontement physique. Mais aujourd'hui, on est dans une arène. Il faut que les gens, quand ils viennent voir un spectacle, quelque part, il faut qu'ils partent séduits et enthousiastes.
Alors peut-être pas jusqu'à mourir de plaisir, mais l'ambiance des balles populaires, ce serait pas mal tout à l'heure. Des occasions de vibrer et d'applaudir, histoire aussi de se réchauffer.
Oui, oui. Bon,
parce qu'il va faire froid. Là,
les contacts sont rudes.
Merci Yann Boucherie. Les meilleurs moments, évidemment, c'est à suivre aujourd'hui avec vous et puis avec le consultant RTL, Christophe Dominici. Michel Sardou, je vous présente.
Oui.
Face à vous. Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Oui.
Bonjour.
Bonjour Adélaïde.
Bonjour Adélaïde, ça va bien ?
Bonjour Marie.
Ben je vous
très
le
bien.
Laisse, tiens.
Vous me le laissez,
ouais.
Très bien. Alors d'abord une confession, je vous l'avoue, j'adore tous vos tubes, mais autre confession, ça m'a valu des heures très difficiles, notamment quand j'étudiais à Normal Sup, parce que dans ce temple de la gauchitude, vous étiez, pour mes petits camarades, un réac, un propène de mort, un machiste, un monstre populaire, bref, un hyper super méchant parce qu'il n'avait pas particulièrement le sens de la mesure à 20 ans.
Quand moi non fait... plus, je
toujours pas d'ailleurs.
Alors, quant à faire votre portrait, c'était pas simple non plus, parce que comment synthétiser 40 ans de carrière, 100 millions de disques vendus et une généalogie du spectacle qui remonte au 19e siècle, tout ça en 2 minutes 30
ah, ça, je n'aurai pas le temps.
Saura-t-on jamais la solitude et l'angoisse du chroniqueur qui n'a pas envie de se ridiculiser sur la première radio de France et qui ne sait pas par quel bout, n'y voyez pas d'allusion graveuse, prendre son sujet. Je me suis dit qu'il fallait suivre vos conseils.
La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant.
Alors là, je me suis tout fait. Brandissant ma brosse à cheveux comme micro, mes plantes vertes en guise de public, j'ai massacré le Connemara, la maladie d'amour, les vieux mariés, ma préférée, le rire du sergent. Après avoir beaucoup chanté...
En effet, durant Sciences Po, vous étiez...
Vous deviez faire tâche. Ah non, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai eu à... vous disiez que vous aviez du mal à vous intégrer avec les ricains. Moi là-bas, c'était pas facile.
Ouais, j'en doute,
alors après avoir beaucoup chanté, j'ai enfin pu écrire ce portrait, mais évidemment, j'ai fait trop long. Alors il fallait couper. Ça fait 3 jours que je me dis qu'il faut que je m'y colle.
Aujourd'hui peut-être, ou alors demain.
Finalement, j'ai évacué les 3/4 des sujets. Je ne parlerai donc pas d'Eddie Barclay qui vous avait dit « Mon petit gars, ce métier n'est pas fait pour toi ». Je ne parlerai pas de votre mère non plus qui vous répétait « T'as beau faire la gueule, t'es un comique », ce qu'on a vu un peu depuis le début de l'émission quand même. Ni du fait que vous avez été, pardon Anne-Marie qui nous écoute, dépucelée par 2 filles à la fois, paraît-il.
Je ne dirais... pas paraît-il, j'ai
dit. C'est sûr.
J'ai dit la vérité, je ne
elles sont
pas.
Là pour témoigner.
Mais je ne veux pas m'en vanter, ça fait vantard, c'est ridicule.
C'est pour ça que c'est moi qui l'ai dit.
Voilà.
En fait, on s'est arrangé avant.
On se vante pour vous.
Je ne dirais pas non plus que vos grands copains sont Johnny et Eddie, mais que vous êtes le seul des trois, et c'est tout à votre honneur, à ne pas avoir choisi un pseudo américain à la noix, que votre fils David est comédien et votre fils Romain écrivain, que vous dînez à 18h30.
C'est oui, ça sonne bien des États-Unis. Ça, je trouve que c'est très bon. C'est la seule chose que j'ai bien aimé là-bas. C'est que les restos sont ouverts à 6h30. Ils font un premier service à 6h30.
Mais pour s'intégrer en France, 18h30, c'est tôt.
Non, j'ai du mal, mais j'arrive à convaincre. Parce que maintenant, ça commence à venir. Je suis en train de créer une tendance. J'arrive à faire ouvrir certains restos à 7h, 7h moins le quart, ils me reçoivent.
Et alors, il paraît que vous faites aussi collection d'ours parce que ça vous ressemble, d'après vous.
Ah, j'adore les ours. Genre, j'ai une collection d'ours. C'est pas parce que ça me ressemble, parce que j'ai trouvé un jour dans une boutique des ours faits par des bergers dans la montagne au 17e, 18e, 19e siècle. Ils les faisaient au couteau, aux petites opinelles. Comme ça, c'est les petits chefs-d'œuvre. Mais c'est vrai que l'ours est mon animal totem. C'est tout à fait ce que je suis. C'est-à-dire à la fois gentil, mais très dangereux.
Oh mon Dieu, tout de suite, je tremble. Alors, je ne dirais pas non plus que vous pilotez votre avion entre votre maison en Normandie et Paris, même si apparemment Anne-Marie préfère les avions de ligne. que vous avez une dame perroquet qui est spécialiste du démontage de machines à laver.
J'ai une perroquette qui démonte les machines à laver, oui.
Voilà, et trois chiens qui dorment tous sur votre lit avec votre épouse Anne-Marie. Je ne dirai rien de tout cela, même si je l'ai complètement dit, parce que j'ai beau connaître toutes vos chansons et avoir lu votre autobiographie, avec une belle photo d'ours d'ailleurs en couverture, je ne saurais jamais vraiment qui vous êtes.
Moi
non. Vous
je ne suis pas l'homme de mes chansons. Voilà. Bravo, merci.
Et puis je ne suis pas non plus ce que j'écris. Que cela vous déçoit ou non, tant pis. Le seul moment où tout est vrai, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle est fini.
Voilà, ça c'est la vraie autobiographie, ça.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup. Merci Adélaïde, merci vraiment beaucoup. Tiens, bah pour compléter peut-être un peu ce portrait, même s'il était très complet, un de vos camarades était dans ce studio à votre place la semaine dernière. Il a une question pour vous, on l'écoute.
Mon cher Michel, c'est Didier Barbelivien qui s'adresse à toi. Et je vais te dire ce qu'il te demande. Puisqu'on sait pratiquement, la France entière sait pratiquement tout de toi, de tes chansons, de ta vie, tout ça. Je voudrais juste que tu nous reparles de tes 20 ans. Michel Sardou, qu'as-tu fait de tes 20 ans ? Première question. Question subsidiaire. Est-ce que tu aimerais avoir 20 ans aujourd'hui ?
Question de Didier Barbelivien pour
ouais,
Michel Sardou.
Oui, j'ai des questions. C'est pas bête, ça. C'est une bonne question. Mes 20 ans, je les ai passés à l'armée, mon garçon. Tu le sais très bien. Parce que j'étais un insoumis, donc j'ai fait 2 ans au lieu de faire 16 mois. Donc j'ai eu 20 ans à l'armée. Ça n'a pas été un drame. J'étais dans un camp disciplinaire parce que j'étais insoumis, évidemment. Mais ça s'est bien passé parce qu'il manquait de sous-officiers. J'avais mon bac et donc je suis passé dans les sous-officiers, ce qui m'a permis d'avoir une vie un petit peu plus tranquille que le soldat de base qui était avec le liseré rouge dans un régiment de merde. Enfin bon.
Vous êtes colonel citoyen de réserve aujourd'hui ?
Moi, je suis colonel de l'armée citoyenne. Mmh. Je suis colonel de l'armée de l'air. Mmh. Mais ça, c'est à titre honorifique. Je n'ai pas combattu dans l'armée de l'air. J'étais
non, bien sûr. Bah, vous avez été nommé.
Est-ce que j'aimerais avoir 20 ans aujourd'hui ? Je ne sais plus si c'est Peggy ou qui disait ça. J'interdis à quiconque de dire que 20 ans est le bel âge. C'est un poète, je crois, me tromper en disant Peggy. Je ne sais plus qui c'était. Peut-être qu'un auditeur va me téléphoner et me dire qui c'était. 20 ans n'est pas le bel âge. Si je devais refaire, je crois que le bel âge, c'est une fois qu'on a passé ce cap de jeunesse, bien qu'elle ait été très belle, ma jeunesse, j'ai pas eu une jeunesse épouvantablement dure, j'ai pas eu de parents compliqués, j'étais plutôt libre, j'étais plutôt bien, je faisais ce que je voulais, je me démerdais. À l'époque, on pouvait faire des petits boulots au black, c'était sympa, on pouvait gagner sa vie sans se faire emmerder. Maintenant, c'est très compliqué, mais disons que c'est plutôt à partir de la trentaine que ça a commencé à fonctionner agréablement. Les 20 ans, c'est une façon de dire je regrette ma jeunesse, si on veut dire la jeunesse est belle, mais c'est plutôt la trentaine que j'aimerais revivre, plutôt que les 20 ans.
Michel Sardou est l'invité du journal Inattendu sur RTL. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite.
RTL 13h13.
RTL, le journal Inattendu.
Marie Drucker.
RTL 13h16, suite du journal Inattendu, présenté par Marie Drucker à ses côtés, Michel Sardou.
Qui vous présente ses excuses, c'est pas du tout Peggy, c'est
Paul Nizan. Voilà, information d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vérifiée en régie par toute l'équipe.
J'interdis à quiconque de dire que 20 ans, c'est le bel âge.
Michel Sardou, est-ce que, c'est pour revenir sur des éléments du portrait de tout à l'heure, est-ce que ce sont des malentendus qui ont couru autour de vous quand on a cru que vous étiez machiste, quand on a cru que vous étiez réac, la droite de la droite, que vous étiez raciste même, quand vous disiez à Colombéchard j'avais des serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit. Est-ce que tout ça, c'est des malentendus ?
C'est-à-dire, c'est des malentendus et des maladresses de ma part, il y a les deux.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, quand j'ai écrit par exemple Le temps des colonies, en fait, c'était pas du tout une nostalgie du temps des colonies, c'était au contraire une charge. C'était une... Je pensais que le second degré allait passer, et je m'y suis mal pris. C'est-à-dire que comme je disais, moi, monsieur, j'ai fait la colo. Évidemment, les gens pensaient que je pensais ça. Or, je singeais quelqu'un dans un bistrot, par exemple, qui aurait pu dire un vieux colonel à la retraite, comme je suis aujourd'hui, par exemple, qui aurait pu avoir la nostalgie des colos. Bon, Ça, c'est de ma faute.
Pareil pour « Je suis pour ».
Alors, « Je suis pour », c'est une faute de titre. Je me suis rétendu là-dessus pendant 25 ans, donc je ne vais pas y revenir. Mais il faut tenir compte d'une chose, est-ce que personne ne fait attention, parce qu'on me le reproche, on me le reprochait il y a 30 ans. Ça, c'était bien. C'était normal qu'on me reproche ça. C'était très manichéen. Dans les années 70, il fallait être de gauche, il fallait être de droite, on pouvait pas être au milieu, on pouvait être nulle part. Et tant qu'à faire, il valait mieux être de gauche quand on était chanteur. Moi, je voulais pas être de gauche et chanteur à la fois. Je voulais être beau et con à la fois. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Mais, comment dirais-je, ça m'a servi aussi. Parce que quelque part, dans certaines chansons, j'ai quand même tendu moi-même le bâton pour me faire battre. C'est-à-dire, je savais très bien que ça allait réagir, mal. Mais ça me rendait un peu service. Le problème, c'est qu'après, ça a duré. Personne n'a pensé qu'à l'époque, j'avais 19 ans, j'écrivais très rapidement, j'écrivais 4 ou 5 chansons par jour. J'écrivais comme un fleuve, donc je faisais pas très attention aux mots. J'étais maladroit, quelquefois. Puis après, entre 25 et 35 ans, j'ai appris à mieux écrire et à mieux canaliser les pensées ou les idées d'une chanson. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où je suis pratiquement un vieux meuble maintenant, qui fait partie de la maison.
Je donne quand même une précision pour les auditeurs de RTL qui vous aiment. Un vieux meuble qui a ouvert la location, comme on dit, c'est-à-dire la vente des billets pour sa prochaine tournée, ses prochains spectacles, vous aurez ouvert le... un an et demi avant, vous avez déjà vendu plus de 50 000 billets de concert.
Oui,
c'est du jamais vu pour un vieux meuble.
Moi, j'ai jamais vu ça en tant que vieux meuble. Oui. C'est la première fois que je vois ça. Une armoire normande face à tel ou tel carton comme ça, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a une évolution dans l'écriture, mais par contre, dans la critique, il n'y a pas d'évolution. Dans l'esprit de certaines personnes, pas toutes, ça s'est calmé, parce qu'autrement, le chiffre que vous citez aujourd'hui, si j'étais vraiment un sexiste, un raciste, un violeur, m'accuser de flatter le viol, enfin de vanter le viol, si c'est comme si je pouvais faire avoir des femmes dans la salle, si je chantais des chansons comme ça, avoir un public aussi large prouve le contraire. C'est-à-dire, je suis populaire, pas populiste, ce qui est tout à fait différent, mais populaire. Mais effectivement, dans les premiers temps où j'écrivais mes chansons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça sortait comme ça venait, et je n'avais pas le réflexe de la correction à l'époque.
Mais comme vous dites, ça vous a probablement rendu service.
Mais d'un autre côté, je le regrette pas. Alors quand je vois encore quelques attardés qui me disent sexiste, machiste, bon, si j'étais vraiment un sexiste, un macho, est-ce que j'aurais épousé la directrice de Elle, par exemple, à votre avis?
Non. Ah non, mais moi je suis convaincue.
D'accord avec moi, tu me connais depuis longtemps.
Mais d'ailleurs,
je veux dire, si j'étais, c'est la preuve flagrante. Dire parce que bon, Elle, c'est quand même pas un journal de machos, c'est avant tout un journal de femmes, un journal féministe. On ne serait jamais tombé d'accord, donc on ne se serait jamais rencontrés, ni même parlé. Donc c'est idiot. Mais c'est vrai que j'ai donné cette image-là à une époque, je peux pas le nier. Et que malheureusement, comme les journalistes se recopient beaucoup, les journalistes de d'autres métiers, je parle, qui font les critiques, qui font les trucs de spectacle, ils recopient ça. C'est bien, c'est un sexiste, c'est un macho, c'est un fasciste, c'est un réac. Et réac, ça me plaît, moi.
Oui, bon. Ça m'étonne pas.
Réac, ça me plaît un peu, parce que c'est bien.
On va marquer une nouvelle pause, et puis après, je vous le dis tout de suite, sur RTL, je vais me faire engueuler, puisqu'on va parler de la présidentielle un peu, mais pour me faire pardonner immédiatement, il y aura une très belle surprise pour vous par téléphone. À tout de suite.
RTL. J'espère que c'est pas présidentiable.
J'ai dit une belle surprise, vous verrez.
13h21.
Le journal inattendu sur RTL.
RTL 13h23, suite et fin du journal inattendu dirigé par Marie Drucker. À ses côtés, Michel Sardou.
Michel Sardou, la présidentielle. Vous avez beaucoup soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. Vous avez été...
Non.
Voilà.
Attendez. J'ai pas beaucoup soutenu. J'ai dit que j'avais voté pour lui.
C'est une manière de soutien.
J'ai pas été à des réunions. J'ai pas été chanté dans les.
Mais vous le savez bien, quand quelqu'un comme vous.
Non,
dit j'ai voté pour
c'est
un tel.
Pipo, ça, c'est du
pipo. Ah bah c'est de la pub quand même.
C'est du pipo.
Vous avez été déçu depuis ?
Oui.
Vous l'avez dit publiquement,
oui. Je suis un démocrate déçu. Déçu.
Pourquoi ?
Déçu pour deux raisons. Parce que promesse auxquelles j'ai cru, promesse qu'il n'a pas toujours pu tenir non plus, il faut bien le dire, c'est pas non plus, il ne faut pas le charger, charger la mule plus que c'est nécessaire. Mais je veux dire surtout des promesses qui ont eu des résultats très décevants.
Un exemple.
Oh, un exemple, euh, un un exemple, l'indépendance des universités. J'aurais commencé par construire des logements universitaires, moi.
Avant de faire l'autonomie.
Voilà, des choses comme ça. Bon, la suppression des 35 heures qui n'a pas été faite et qui a été en fait une accumulation d'heures supplémentaires à partir de l'heure légale du temps légal de travail de 35 heures. Des décisions européennes, un leadership, des choses prises un peu à la va-vite. J'ai un sentiment, et là, de plus en plus, que tout ça est pris à toute vitesse, sans concertation. Il devait y avoir des référendums, il n'y en a pas eu. On ne demande pas l'avis des gens.
Vous allez voter en avril et mai prochain ?
Alors, je suis très emmerdé parce que rien ne m'intéresse, là. Je vous dis, je suis un démocrate déçu. C'est clair que leur langage, je ne parle pas le même. Où ils sont, c'est à des millions d'années-lumière d'où je suis. Alors, je suis sûr d'une chose, les taxes, on les aura. Ça, on nous promet tous des taxes, ça, je suis sûr qu'on va les avoir. Mais pas contre les promesses, je ne suis pas certain qu'on les aura. Ça, je n'y crois pas une seconde. Et le côté mondialiste qu'on peut soi-disant pas canaliser, je ne suis pas d'accord. Je préfère entendre un Montebourg qui dit, il faudrait peut-être s'y mettre, arrêter de dépendre qu'une agence d'Américaine nous dise comment mener mon pays. Ça, je ne peux pas le tolérer, ça.
Alors,
je peux pas le tolérer.
Je vous avais promis une surprise. Oui. C'est pas un présidentiable. Donc,
pas Standard & Poor's.
C'est ni Fitch, ni Standard & Poor's, ni un présidentiable. Oui. C'est quelqu'un, je crois, je ne suis pas sûre que vous le connaissiez. Bonjour, on va voir si vous reconnaissez sa voix. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, je suis un petit peu... il faut que je fasse un peu en devinette ou quoi ?
Vous faites comme vous voulez.
On s'est rencontrés, Michel, une ou deux fois sur des plateaux de télévision. Il m'arrive d'être un peu public aussi de temps en temps par mon activité. Allez, disons, je suis né à Nantes comme Jules Verne.
Oui.
Jules Verne, c'est un grand homme. Moi, je suis un tout petit et j'ai récemment eu un lien très direct avec Jules Verne.
Ah, Loïc!
Ah, voilà!
Oh, mon héros!
Loïc Perron!
C'est mon héros, évidemment, je ne connais pas sa voix, il parle jamais, ce mec! Oh, comment vas-tu?
Très, très bien!
Tu as fait quelque chose de. Oh, ça m'a fait un bien dans la tête!
C'est vrai?
Oh, quelle aventure merveilleuse!
Ça a mis un peu de rayon de soleil, justement!
Oh, oui,
hein.
de rêve!
Vous avez dit, c'est la personne en ce moment que j'admire le plus!
Ah, oui, mais ça fait longtemps, hein, Loïc! Ça fait longtemps,
oui, non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se rencontre et qu'on s'apprécie pour le coup, mais,
et là,
mais
vraiment,
bon, c'est très gentil de penser à moi comme ça.
Cette victoire est formidable.
Ouais.
Alors en plus, ce que j'ai adoré, c'est tes interventions où tu avais l'air d'être pas en plaisancier, parce qu'il ne faut pas exagérer,
mais presque,
au milieu des
raison.
Icebergs et tu nous faisais un commentaire. Bon, ça va, il n'y a rien qui cloche, ça baigne. J'ai trouvé ça, écoute, je te remercie, tu m'as apporté un bonheur fou. Dans ce bourbier en ce moment, là, ce merdier général, ça m'a fait un bien énorme.
Vous avez un mot à dire sur Michel Sardou, Loïc Perron ?
De la même manière, on a la chance de temps en temps, par nos métiers, je trouve, de faire rêver tout simplement, et Michel en est la preuve dans notre pays, et beaucoup plus loin encore, de faire rêver. On a tous des manières différentes de le faire. Moi, il me faut un bateau sous les pieds pour partager avec le plus grand nombre. Bah lui, il faut seulement un micro et il arrive à faire rêver des millions de personnes et c'est pareil. Et j'aime bien, on est tous des intermittents du spectacle.
Absolument.
Et c'est vrai, hein, de temps en temps, c'est joli de sentir. Alors nous, on a beaucoup moins, on a rarement la foule ou même les gens en face de nous. Mais on vit de temps en temps. C'était assez fascinant parce qu'il y a des moments de partage qui sont vraiment géniaux.
Tout le monde vous suit, Loïc.
Tu as vu l'accueil que tu as eu.
C'était
émouvant, c'était extraordinaire. Je te remercie, mais un million de fois, tu m'as fait un bien énorme.
Oui, merci vraiment beaucoup, Loïc Perron, d'avoir fait cette surprise à Michel Sardou et d'avoir été disponible aujourd'hui. Votre exploit, 45 jours, 13 heures, 42 minutes, 53 secondes. Et prochain exploit, j'espère, à venir, en tout cas, c'est votre participation à la Coupe de l'Amérique avec votre frère.
Il l'avait fait une fois.
Exactement, oui. Je l'ai déjà perdu une fois, mais maintenant, on va essayer de la gagner.
Il faudrait, oui. Là, oui.
En tout cas, on est avec vous deux, les intermittents du spectacle, Loïc Perron et Michel Sardou. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, ça. Merci, Marie. Alors, vraiment, c'est un homme formidable, ce type-là. Il a une franchise. Lui, il n'a pas langue de bois, lui. Hein. Il parle, il dit ce qu'il pense. C'est un capitaine. C'est un vrai, vrai aventurier. Pour moi, c'est le dernier endroit, le dernier espace. Tu vois.
Bah, peut-être qu'il vous emmènera.
Ah, j'espère. Je suis un peu vieux maintenant pour tirer l'Idriss. Hein.
Mais non. Il fera tout, c'est pas grave, vous lui ferez des pâtes lyophilisées et vous lui chanterez une petite balade au clair de lune. Merci beaucoup Michel Sardou d'avoir été avec nous, avec les auditeurs de RTL pour ce journal inattendu.
C'est déjà fini, moi je serai toute la journée. Moi,
nous aussi,
bien,
hein, je peux vous le dire, mais itinéraire d'un auditeur gâté à suivre.
Avec Jacques, merci Michel. Jean-Seb. Sinon vous prenez Michel, tous les deux.
Mais c'est ce que j'allais lui proposer, Michel pouvait venir.
Salut les amis,
bonjour.
Bonjour, c'est gentil. Je vais vous laisser faire votre boulot, après on va dire que je monopolise l'antenne et le... C'est ça va me condamner.
Alors écoutez, justement, Michel, on peut vous trouver des restaurants ouverts à 18h30. Oui. Hein, ça pas de problème.
Marquez-les-moi.
On a tout ce qu'il faut, RTL.
Puis ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut utiliser vos chansons en toutes circonstances.
Ah, c'est sûr.
Voilà.
On vous embrasse. Sibérie, salut. Sur la Bohème.
Voilà, donc on met un bonnet.
On met nos bonnets. Merci. Au revoir, Marie.
Au revoir, Jeanne. Merci.